Éminence Dieudonné, cardinal Nzapala Inga, bonjour.
Bonjour.
Vous avez effectué un périple missionnaire du 20 février au 5 mars dernier dans plusieurs régions du Centrafrique. Alors, qu'est-ce qui a fait l'objet de votre déplacement dans ces villes de province?
J'ai fait ce déplacement en réponse à l'appel de mon confrère, l'évêque de Bambari, Mgr Richard Apora. Il est allé dans la région de Birao, Bakaga, et il était revenu l'année dernière en nous annonçant que depuis 10 ans, il n'y a pas de prêtres et d'évêques qui ont fait le déplacement. Et pour moi, c'est une priorité d'aller vers des régions les plus reculées où il y a des personnes qui sont là-bas. Quand je partais à la rencontre de mes compatriotes qu'on pense être loin, exclus, abandonnés. Et je suis allé les rencontrer effectivement et j'ai découvert beaucoup de réalités. Non seulement des réalités positives, mais des réalités négatives. Positives, c'est la joie qui est là, qui anime ces gens. C'est l'enthousiasme qui est là. Et surtout le combat pour la vie. On parle de résilience et autres. Et j'ai aussi vu les points négatifs. Eh bien, ces gens sont abandonnés. La route n'existe pas. Plusieurs fois, nous nous sommes embourbés. Notre véhicule s'est renversé. Ça montre que cette région a été oubliée. Il n'y a même pas un pont depuis l'indépendance jusqu'à Birao, jusqu'à Andafok. Je suis allé voir le véhicule que le premier président avait amené là-bas. Il est resté. Dieu merci, nous sommes revenus avec nos véhicules. Tout ça pour vous dire que nous sommes allés rencontrer des hommes, des femmes et nous avons vu des défis scolaires, sanitaires, routiers, au niveau de l'eau potable. Plusieurs défis et c'est notre rôle de venir relayer pour que des solutions soient trouvées pour cette population.
Au sujet du problème d'eau potable, qu'est-ce que vous avez vécu? Une illustration pour faire comprendre clairement ce que vivent ces localités, ces communautés là-bas.
Bien, au niveau de l'eau potable, vous allez par exemple à Bali, c'est après Muka. Eh bien, dans cette ville, il n'y a que l'eau que partagent les hommes et les bêtes en même temps. La couleur, quand tu vois, ne ressemble même pas à une eau à boire. Mais les gens n'ont pas d'autre alternative. Et ils le disent ouvertement. Nous n'avons pas d'eau. On n'a même pas d'autre source. Donc, ils sont obligés de boire l'eau que les ânes, les bœufs, les chameaux boivent. C'est des préoccupations pour nous en voyant cette situation. Alors, pourquoi nous pensons que c'est quand même bien de construire des points d'eau potable pour aider cette population? Que ce soit le gouvernement, que ce soit les ONG, c'est des défis qu'on peut relever ensemble en venant au secours pour que les gens puissent avoir de l'eau potable et augmenter leur espérance de vie. Ils nous disaient qu'il y a tout le temps des diarrhées, tout le temps des maladies. C'est aussi lié à l'eau qu'ils consomment.
Qu'est-ce que vous dites de l'état des postes de santé en déliquescence avec un manque cruel ou bien total du personnel médical à l'exemple de la région de Ouada et avec cette femme qui seule s'occupe de la population là-bas?
Moi, je suis en admiration pour cette femme. Elle est aide-accoucheuse. Elle a vu comment les ONG faisaient des interventions chirurgicales. Ils avaient amené les appareils. Ils avaient amené tout ce qu'il fallait. Ils faisaient des interventions. La dame a appris sur le tas. Les gens, en partant, ont laissé tous les appareils. Devant la situation, elle s'est posée la question. Que dois-je faire? Laisser mes sœurs mourir ou je peux prendre le risque de les sauver? Elle a pris le risque de commencer à faire des interventions chirurgicales et c'est ce qu'elle fait pour sauver des vies. Moi, je pense qu'il faudrait la renforcer. Renforcer, c'est envoyer des personnes qualifiées qui vont prendre le relais. Envoyer aussi des moyens adéquats pour aider. Il n'y a qu'à Birao que vous avez le médecin. Ailleurs, ça n'existe pas. Toujours des secouristes qui sont là parce qu'ils sont natifs de ces régions. Il est temps qu'on puisse aider ces gens-là à retrouver la santé et à vivre aussi comme eux.
Est-ce que ce sont toutes les opérations chirurgicales réalisées par cette femme-là qui ont été des réussites?
Je pense pas. Faut pas se leurrer. Vous savez que les gens sont aussi compréhensifs et ils savent que cette dame fait de son mieux. Eh bien, quand il y a des échecs, tout le monde accepte parce qu'il n'y a pas d'autre alternative. C'est question de vie ou de mort. Parce que les gens souffrent atrocement et que la route est impraticable. On ne peut pas se rendre à Bria, faire 200 km. Et je vous ai dit, l'argent à mobiliser est énorme. Donc, ils préfèrent plutôt aller auprès de cette dame. Si elle peut les sauver, elle peut. Sinon, ben, les gens préfèrent mourir. Voilà le sentiment de l'abandon. Il y a des échecs. Bon, les gens comprennent aussi cet échec-là lié à ses limites. Elle donne de son mieux pour réaliser cela.
Comment percevez-vous la question de l'autorité de l'État, surtout avec le manque à gagner dans l'économie nationale, s'il faudrait vraiment mettre en exergue les formalités à payer en route?
L'autorité de l'État, dans plusieurs endroits, est absente. Il y a des héros. Parfois, ça peut être le sous-préfet, parfois être le maire. Mais massivement, les gens ne sont pas présents. Quand l'autorité de l'État n'est pas là, c'est les groupes rebelles qui prennent le relais. Et bien, c'est eux qui font les formalités. C'est eux qui demandent l'argent. Je vous donne l'exemple à Ouada. Le 11 janvier, il y a eu des conflits. Ce conflit est survenu parce que les groupes rebelles ont réclamé de l'argent pour payer les munitions. Et comme certains commerçants ont refusé, il y a eu des affrontements. Suite à cela, le maire a été destitué par les groupes armés pour mettre un autre jeune. Moi, je pense que si on est responsable de groupes armés, on ne doit pas outrepasser ses limites. Empêcher un sous-préfet de vaquer à ses occupations ou de circuler, non, on est allé trop loin. Démissionner un maire, c'est aussi aller trop loin. Moi, j'ai parlé ouvertement avec ces jeunes-là en leur disant « Vous n'avez pas le droit de le faire et que je vous invite, vous-même qui avez posé l'acte, de reconsidérer votre position et de changer. » J'espère qu'ils ont écouté parce que moi, je ne peux que m'adresser à des consciences. Je n'ai pas une force, je ne suis pas leur général pour leur imposer des choses, mais j'interpelle leur conscience dans l'espoir qu'ils vont entendre la raison et revenir à des meilleurs sentiments pour que l'autorité de l'État soit rétablie.
Vous vous êtes affiché contre l'instrumentalisation de la crise centrafricaine. Qu'est-ce qui vous fait dire cela?
Je viens de la Vakaga, à Ouada. Aucune église n'a été détruite. On a seulement pillé la maison des pères, en prenant des lits, en prenant des panneaux solaires et autres. Mais l'église n'a pas été touchée ni brûlée. Aucune mosquée. Aucune église protestante. Vous allez à Wanda Djalé, même chose. Vous allez à Birao, même chose. À Andafog, même chose. Les musulmans sont mobilisés pour nous nourrir à Ouada le soir et le lendemain. En fait, à Ouada, quand on regardait, c'est comme s'il y avait beaucoup de musulmans à la messe que nous avons célébrée. Ça montre que la cohésion sociale existe et les gens ne veulent pas. On peut rencontrer musulmans, protestants, catholiques dans une même famille. C'est le choix. Parce qu'on est dans un pays laïque, chacun peut choisir sa religion et on doit respecter les uns les autres. Et nous ne voulons pas l'intolérance, nous ne voulons pas la division ni l'instrumentalisation de la religion.
Vous vous préparez à faire un voyage en Allemagne. Quel est l'objet de ce déplacement et qui vous allez voir?
Nous pensons faire un voyage dans le cadre d'un plaidoyer. Vous savez que la question de l'embargo, c'est une question qui nous préoccupe. Sur le pays, on aimerait que ce pays revienne dans la légalité. Nous avons vu beaucoup de gens, que ce soit à Lindau, que ce soit à Ipi, dans beaucoup d'endroits, qui demandent à ce que les FACA reviennent pour les protéger. Donc, il faudrait qu'on aide. Et nous allons rencontrer les ministres de la Défense, les ministres du Développement. C'est notre manière à nous d'aller faire le plaidoyer. Nous sommes leaders religieux. On va faire le plaidoyer pour notre pays, afin qu'on puisse se pencher si on peut lever l'embargo, si on peut aussi aider la population, et si on peut avoir des coopérants allemands aussi qui peuvent venir aider comme ressources humaines ici. Je crois que ces personnes seront les bienvenues. Donc, nous allons sillonner ces ministères dans l'espoir que nos messages, les messages des Centrafricains seront entendus pour qu'il y ait aussi contribution de l'Allemagne pour la République centrafricaine.
À la question de responsabilité partagée des fils et filles de certaines régions, de Birao en exemple, et de certains ministres ressortissants de ces régions qui n'ont rien fait quand ils étaient encore au gouvernement. Comment recadrez-vous la conception du terme ministre?
Le ministre est un serviteur. Il est là au service de la population. On ne devient pas ministre pour servir que sa région. On est ministre de l'État. L'État, c'est tout l'ensemble du pays. Et vous pouvez avoir une mission générale où dedans, il y a votre région. Si vous êtes ministre des Transports et qu'on a donné le financement pour faire la route qui se trouve chez vous, vous devez être le premier à jubiler, à pouvoir tout faire pour que ça puisse se réaliser. Donc, nous croyons que les uns les autres doivent être compétents, doivent s'impliquer pour être intègres. Et on attend d'eux qu'ils prennent à bras le corps la question de la République africaine parce que il faut retrousser les manches devant les situations difficiles que traverse notre pays. Sinon, on va encore sombrer dans la médiocrité.
Excellence Dieudonné Cardinal Nzapalainga, merci.
Je vous remercie.